Un plateau, deux invités, seuls, devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. On commence par vous. Qui êtes-vous ?
Je suis Dominique Cardon, je suis chercheur en sociologie, je travaille au laboratoire des usages d'Orange Labs et je suis professeur associé à l'Université de Marne-la-Vallée. Je travaille depuis très longtemps sur l'interaction entre les individus et les médias. D'abord les médias de masse, comment nous parlons à la radio, à la télévision, puis beaucoup maintenant sur Internet, sur l'usage des réseaux sociaux et plus spécifiquement sur les algorithmes du web. Quelles sont leurs politiques ? Comment ils classent l'information sur le web ?
Même question, qui êtes-vous ?
Je m'appelle Stéphane Hugon, je suis sociologue et je m'intéresse aux transformations du lien social, notamment tel qu'il apparaît en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur l'Internet ou même sur les objets technologiques du quotidien. Et j'essaie de voir comment ces objets, ces nouveaux marchés, cristallisent une transformation plus profonde de la société, de l'être ensemble, de l'identité et de tout ce qui fait une société.
Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Mais avant le débat, petit préambule.
Facebook change-t-il le monde ? Moi, je pars de l'hypothèse que Facebook ne change rien. Il a juste révélé des formes latentes. Il a peut-être révélé, au sens presque photographique du terme, des structures qui étaient là, mais qu'on ne voyait pas.
Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, un jour avait dit dans une conférence un peu exaltée, sans doute, qu'il allait, grâce à Facebook, réconcilier les Israéliens et les Palestiniens. Donc il y a toujours accompagnant Facebook cette idée que c'est un opérateur de la transformation historique. Moi, je ne dirais pas que ça change rien. Je dirais que ça change sans doute pas grand-chose à la transformation historique, mais ça change l'inframonde. Ça agit sur les structures de la vie quotidienne. Ça vient s'insérer dans cette partie de nos vies qui serait plutôt la vie quotidienne, les petites choses, la sociabilité, la conversation.
Oui, c'est très juste, parce qu'en même temps, il y a une telle appétence, il y a un tel désir, il y a une telle attente autour de tout ça, que forcément, par, comme on dit, la prophétie autoréalisatrice, les gens s'autorisent désormais à changer les choses de leur vie.
Voilà.
Même si ce n'est pas une forme de causalité entre Facebook qui est là et qui aurait déterminé des nouveaux comportements.
Ouais.
Facebook est-il un réseau social comme les autres ? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Et d'ailleurs, les autres réseaux sociaux, y compris les réseaux sociaux qui ne sont pas en ligne, qui ne sont pas électroniques, puisqu'il me semble qu'il y a une forme sociale, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de cartographie qui existe dans Facebook, qui a peut-être existé, probablement existé avant Facebook. Et c'est peut-être même parce que la forme de cette cartographie était déjà légitime dans l'imaginaire de tous les adolescents, et pas que les adolescents, et les seniors, et les adultes, et les hommes, et les femmes, que chacun a pu s'y trouver avec autant de confort. Et que finalement, les utilisateurs se sont appropriés Facebook avec quelque chose qui est de l'ordre du déjà-vu, ou quelque chose comme s'il y avait quelque chose d'un peu archétypal, c'est-à-dire une vieille image, une vieille carte qu'on reconnaît dans Facebook, et qui permet justement de l'utiliser et de se sentir à l'aise avec. Et d'une certaine manière, Facebook est un réseau social comme les autres, comme il existait des formes de solidarité médiévale, comme il existait des formes de solidarité ouvrière à la fin du 19e, comme il existe aussi des modèles économiques, je pense au mutualisme, par exemple, à la fin du 19e, etc., etc., qui existent. Et dans cette grande tradition des réseaux sociaux, quelle qu'en soit la forme, arrive à un moment donné particulier de notre histoire, à la fois politique, technologique et sociale, je dirais relationnelle, un modèle, une offre, si on se met d'un point de vue économique, qui n'est peut-être pas meilleur, pas ni moins bien que les autres, mais qui rentre en phase, finalement, avec un imaginaire social, et du coup, ça correspond et ça cristallise.
Non, mais je serais assez d'accord avec ça, effectivement. Mais ce qu'il y a, c'est que le numérique, en fait, ce qui va fonctionner dans le numérique, c'est toujours une reprise de formes sociales antérieures qu'on utilisait avant. Donc le réseau social numérique n'est jamais, en fait, qu'une sorte de réarticulation de la forme réseau social qui est l'interaction à deux, à trois, à quatre, à cinq, avec les amis, avec la famille. Donc, ce qu'on appelait la sociabilité, ce qui avait été déjà beaucoup travaillé par les sociologues précédemment. On peut dire que, d'ailleurs, tout le web est comme ça. C'est-à-dire qu'on a pris le modèle de la bibliothèque et puis on en a fait le web 1, on va dire. Oui. Bon, on prend le réseau social et la conversation, on en fait le web 2. Simplement, ce qu'il y a, c'est que moi, je pense que dire le réseau social devient numérique, c'est à la fois dire c'est la même chose, et en même temps, c'est dire il y a un petit décalage qui se joue, il y a des potentialités nouvelles qui se font. La bibliothèque, quand elle est devenue numérique, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, des liens hypertextes qui permettent de circuler à l'intérieur des documents, et pas simplement de documents à une classification, puis à un document. Et du coup, le réseau social, il prend une sorte de configuration qui est nouvelle. Alors moi, l'un des points auxquels je suis très attentif, c'est le fait que... on a des conversations sur Facebook et sur la plupart des réseaux sociaux, mais pas tous, avec des gens en fait qu'on connaît bien dans la vraie vie. Donc on a pris notre réseau d'amis, de nos familles, nos collègues, et puis les connaissances qu'on a, puis on les a transportées, puis on continue à discuter comme on discute dans la vraie vie. Mais en même temps, on y a ajouté des gens qui n'étaient pas. Et en même temps, on a mélangé des gens que dans la vraie vie, on ne présentait pas les uns aux autres. On ne présentait pas la famille, aux collègues, aux amis, où on le faisait différemment, etc. Et donc, en fait, le support numérique du réseau social donne des opportunités de mélanger des sphères de notre vie sociale. Et en même temps, quelque chose qui là est quand même nouveau, et c'est là, moi, je crois d'ailleurs que ça agit sur sur les individus, quand même, d'une manière ou d'une autre, c'est que ça permet aussi d'entrer en dialogue avec des gens avec qui on n'était pas entré en dialogue, à la périphérie du réseau social non numérique, mais à la périphérie de cet univers, qui tout d'un coup sont rendus plus accessibles par Facebook. Et c'est un des moyens à la fois d'enrichir et en même temps aussi sans doute de rendre un peu plus superficielles nos relations sociales. Mais je pense qu'on en discutera.
Mais ça, c'est très juste parce qu'il me semble que Facebook va donner une dimension qui structurellement est très proche et qui quantitativement est plus importante. Et du coup, c'est la chance pour le deuxième cercle, finalement. Voilà. Puisque le premier étant saturé, parce que les gens qu'on voit régulièrement dans notre travail, ou nos amis proches, ou notre famille, on a déjà cette relation qui est très dense. Mais par contre, ce deuxième cercle, c'est-à-dire les gens qu'on voit occasionnellement, et dont on pourrait augmenter l'intensité relationnelle, ben, là, ça va marcher. Ouais. Parce qu'effectivement, en très peu de temps, on peut tout simplement ne pas perdre de vue les gens, tout simplement. Et je crois qu'il existe une forme de relation qui est tout simplement de se voir. Comme ça existait d'ailleurs dans les milieux ruraux auparavant, où il y avait des gens qui se connaissaient sans forcément avoir dialogué directement, sans se connaître plus de visu. Mmh. Et on retrouve finalement cette forme de socialité, qui est un peu une socialité du frôlement, c'est-à-dire un peu à distance. On se connaît sans vraiment se connaître, on sait à peu près ce qu'il fait, on sait que ça pourrait nous intéresser, on lui a jamais parlé, mais voilà, il est déjà dans une zone de potentiel qui pourrait être activable si on en avait besoin ou envie. Et ça, je crois que ça, c'est une chance qui est donnée grâce à l'électronique, d'une certaine manière, grâce à l'outil, et qui, d'une certaine manière, vient aussi prendre une place particulière, je dirais presque historique, du fait d'un certain effondrement du reste du monde. Là où seraient les grands piliers de notre société, ben, y a comme une saturation. Je pense à l'école, je pense au travail, qui sont des espaces qui désormais sont des espaces difficiles quand même, où on y découvre des formes de violence, des formes d'immobilité, des formes de conservatisme, alors qu'on a le sentiment que dans ce vaste espace qui paraît plus neuf, alors qu'il n'en est rien, mais il y a encore de formes d'utopie relationnelle, d'utopie sociale, d'utopie des imaginaires qui sont finalement... qui donnent un espèce de vouloir vivre, en fait. Enfin, ça, c'est peut-être très européen comme lecture, mais j'ai le sentiment qu'il y a une deuxième chance.
Votre idée, mais alors... C'est-à-dire, en fait, oui, moi, je suis très vraiment d'accord pour dire que, en fait, l'endroit où joue Facebook, c'est... et d'ailleurs, contre, je pense que c'est un argument, et alors qui vient de toutes les enquêtes d'usage qu'on peut faire, contrairement à ce qui est beaucoup dit dans la critique, c'est-à-dire on perdrait la présence avec les vrais amis, les fameux vrais amis, alors ça, je pense qu'on peut garder ce débat. Et ce que montrent les enquêtes, c'est que c'est pas avec les liens les plus quotidiens on a beaucoup d'interactions avec eux, mais ce n'est pas l'endroit où ça joue de façon la plus forte. Ce n'est pas non plus avec des inconnus, c'est avec cet entre-deux, hein, du lien faible, du lien opportuniste, du lien la désinhibition du frottement relationnel. C'est effectivement, je n'osais pas, mais là, sur Facebook, ça va être plus simple parce qu'il a publié ça, je vais pouvoir le commenter, etc. Que se joue une sorte de curiosité qui s'ouvre et de curiosité dont il faut dire, vraiment, là, je suis complètement là-dessus, qu'on oublie de dire que les vrais amis, il y a une sorte de tyrannie du lien fort, c'est-à-dire qu'on est enfermé autour de... voilà, avec des gens qui nous ressemblent, qu'on voit tout le temps, et qui nous apportent finalement peu d'informations, puisque nous partageons les mêmes goûts, les mêmes cultures, le même mode de vie, etc. Et que ce que fait Facebook, c'est d'aller un tout petit peu, voilà, au-delà. Oui. Mais alors après, je suis intrigué par votre hypothèse, c'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, c'est l'idée qu'on passerait par le lien faible, finalement, on passerait par cette... nouvelle forme de curiosité pour des relations sociales qui sont moins facilement appréhendables dans la vie ordinaire, en raison ou par substitution ou pour compenser finalement une sorte d'affaiblissement des projets politiques substantiels. Voilà. Et peut-être là que moi, mon point de désaccord serait de dire peut-être qu'en fait, c'est la seule manière de faire de la politique, en fait. Ce qu'on découvre, c'est que cette politique assez transcendante, en fait, où on s'investirait dans des institutions dans lesquelles on croirait et on aurait un mode d'engagement fort, finalement, la seule manière de les accrocher, de les appréhender, c'est aussi d'élargir notre curiosité, c'est-à-dire c'est de passer par le bas. Et alors, moi, je trouve que ce qui est important avec Facebook, c'est qu'on passe toujours par le bas. Voilà, on ne passe pas par... la catégorie, l'institution, le projet émancipateur, etc., on passe par le réseau social qui fait qu'on va construire des collectifs, on va construire des zones d'intérêt, des espaces de partage, mais on va le faire en devenant ami avec des gens, en commençant à discuter, puis en discutant, en échangeant, puis en ajoutant des personnes progressivement, et que finalement, on fait de la politique par le bas, mais on fait aussi de la généralité par le bas. Mmh. Non ?
Il y a un espèce de paradoxe, parce que, à la fois, moi, je me retrouve tout à fait dans votre hypothèse qu'il y a une dimension politique, mais à ce moment-là, micro-politique, c'est-à-dire de politique par la base, mais qui, d'une certaine manière, sort de cet espace deux éléments qui étaient structurants pour notre politique, enfin, pour notre culture politique, en tout cas, dans le 19e et le 20e siècle, qui étaient l'idée de l'individu et l'idée de la rationalité. Mmh. Parce que je crois que plus qu'ailleurs... Facebook est un lieu sur lequel il y a des jeux d'individualité et les relations ne sont pas du tout des relations rationnelles, contractuelles. Ce n'est pas le contrat social, Facebook. C'est avant tout de l'affect. C'est des signaux faibles. C'est des partages d'images. C'est des partages de temporalité. C'est souvent cette situation paradoxale de communication forte sur l'information faible. Et du coup, c'est quelque chose de très animal, finalement. Et du coup, là, il y a quelque chose qui est un lien social dont j'oserais pas dire qu'il est la structure du politique, mais qu'il est plutôt en deçà ou au-delà du politique.
Ouais, moi, je dirais pas qu'il est animal, parce que, mais en revanche, il nous montre tout simplement que les modèles par le haut, en fait, étaient des fictions. Le modèle individualiste rationnel est une fiction. Ce qu'on découvre, c'est qu'on construit en fait le public par le bas, qu'on construit pas par des individus, mais par des relations, et des relations qu'on construit pas à pas, en agrégeant des gens et en formant des collectifs. S'il y avait une vertu politique de Facebook, enfin des réseaux sociaux numériques, on pourrait dire, c'est moi je crois à ça, c'est-à-dire c'est de construire par la conversation ce que disait, ce que sont des publics concernés. Voilà, c'est plus l'opinion publique, mais c'est la mobilisation de publics concernés par ce bien.
Il y a quand même ce paradoxe dans Facebook qui vient invalider... des choses qui ont été des modèles structurants à la fois pour nos sociétés politiques, mais aussi pour des activités comme le marketing, puisqu'on avait toujours comme présupposé d'une identité individuelle qui était relativement stable et qui se fondait un peu par intime conviction et qui s'inscrivait dans une sorte de pérennité. Or, Facebook et l'Internet de manière générale est surtout un pays de girouettes, où finalement les choses changent très vite et on oublie les choses très vite. Et l'essentiel des formes de conviction, les formes d'agrégation, se font aussi par imitation, par adhésion affective. Et donc on a souvent dit que l'Internet est l'espace de propagation de la rumeur, mais c'est quand même vrai dans un certain nombre de cas.
Moi je crois que si on regarde un peu longuement, certes il y a beaucoup plus de mobilité, il y a beaucoup plus d'identité, différentes et variables. Il y a aussi de l'intermittence, ça c'est sûr, qu'on est engagé, on n'est plus engagé, on dit ça et puis après on a oublié, etc. Mais il y a en fait une forme de continuité quand on regarde les individus. On ne dit pas tout et n'importe quoi. On ne suit pas toutes les mogues et toutes les vagues. Ces histoires de fausses rumeurs sur Internet, moi je soutiens toujours l'argument inverse, c'est-à-dire qu'il y a pour lutter contre... Les fausses rumeurs ou les erreurs, en tout cas publiées dans les médias, il n'y a rien de mieux qu'Internet. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une collectivité d'internautes qui sont tous des enquêteurs qui utilisent leur raison, hein, pour réenquêter et qui font taire les rumeurs dont, pour lesquelles on peut enquêter pour montrer que c'est faux. Hein. Nicolas Sarkozy dit « J'étais présent le jour de l'effondrement du mur de Berlin » sur Twitter, il faut attendre une demi-heure. Les internautes ont fait l'enquête. Mmh. Et ils n'ont pas fait à l'affect. Ils l'ont fait en employant des techniques d'investigation et d'enquête qui sont ceux qui sont enseignés dans les écoles de journalisme, mais là, comme il y a des milliers d'internautes, bah, il y a beaucoup plus d'enquêteurs, qui fait que du coup, la rumeur a un niveau de circulation qui est faible. Alors c'est vrai que le brasier peut partir très très vite, et que quand c'est pas vérifiable, bah, ça continue à circuler, ça excite, ça attire, et du coup, on le laisse circuler. Mais quand le fait avéré, ou supposément avéré de la rumeur se met à circuler et qu'il est faux, on le voit très bien pour les fausses morts, il y a toujours un malin à un moment qui va dire un tel est mort, bon bah il est mort pendant un quart d'heure sur Twitter, puis après il y a quelqu'un qui dit non il est là, voilà. Alors voilà, est-ce que Facebook est un réseau de jeunes en fait, hein, la question, est-ce que les réseaux sociaux sont un réseau de jeunes, ce qu'il y a c'est que historiquement, on peut dire depuis l'arrivée des usagers, c'est sûr que c'était porté par une immense vague juvénile, hein, et que d'une certaine manière, les plateformes ont été conçues pour les jeunes. Les jeunes se sont emparés des plateformes, ils lui ont donné d'ailleurs leur forme, leur humeur, puis cette sorte de culture du cool qui est très présente. Simplement maintenant, quand on regarde les chiffres, vu le succès absolument sidérant de ces plateformes, il est bien évident que ça concerne de plus en plus de gens. Moins de vieux, mais de plus en plus quand même de personnes qui ont un âge avancé. La moyenne de Facebook, d'ailleurs, a considérablement augmenté. Je crois qu'elle est autour de la trentaine. Il y a des risques de fracture numérique, mais plutôt entre ceux qui sont dans le réseau et ceux qui n'y sont pas, ceux qui sont sur Internet et ceux qui n'y sont pas. Il y a une sorte de risque de conformisme aussi, hein, c'est-à-dire si vous n'y êtes pas, vous êtes exclu de la société, ce qui est un discours, à mon avis, dramatique. Et puis, moi, ce qui me fascine toujours entre les usages des personnes plus âgées et des jeunes, c'est que ces réseaux, ils ont, de certaine manière, presque dans la structure technique, ils ont incorporé des prescriptions sur la forme que doit avoir la sociabilité. Or, on sait que la sociabilité non numérique, qui est enregistrée sur Facebook, elle a des formes très très différentes quand on est entre 16 et 25 ans, et puis après, et qu'il y a notamment la sociabilité des 16-25 ans, c'est une sociabilité homogène, tout le monde est ami avec tout le monde, et puis il y a les événements de la sociabilité qui font que le déménagement, la mise en couple, le premier emploi et le plus dramatique, en tout cas pour la sociabilité, le premier enfant, font que la nébuleuse s'effondre, elle se sépare, elle crée des zones qui vont devenir des zones séparées. On va garder quelques meilleurs amis, puis on va avoir les amis du travail, puis surtout il y a la famille qui va redevenir très importante dans les relations sociales. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que quand on regarde les usages de Facebook par les jeunes, on a cette sorte de bande qui est mise en place, et que c'est plus compliqué pour les plus âgés, parce qu'ils doivent se servir de l'interface pour arriver à aussi maintenir cette idée que notre sociabilité n'est pas un grand panier dans lequel on a mélangé tout le monde, mais qu'il faut jouer avec les tensions, avec les frustrations, avec les petits conflits d'orgueil et d'honneur. Un des effets intéressants sur l'âge, moi je trouve, c'est que on est en train de proposer quand même un modèle de plus en plus juvénile. On mélange tout le monde. On n'a pas grand chose finalement à cacher de nos multiplicités de modes de vie. On n'a pas, voilà, à cacher notre vie familiale, ou on la cache. On la montre un peu plus, hein, à nos collègues et à nos amis dans les cercles de sociabilité.
On peut dire qu'il y a une forme de jeunisme, une espèce de, non pas une loi du cool, mais un harcèlement du cool, là, avec, qui passe par Facebook, mais dont Facebook, me semble-t-il, n'est pas à l'origine. Je pense qu'il y a aussi derrière ça, derrière ce jeunisme qu'on pourrait considérer, qu'il y ait aussi une saturation de la figure patriarcale, finalement. Aujourd'hui, c'est très difficile d'être père, d'être chef, d'être responsable, d'être patron. Et les formes de confiance, les formes d'autorité, les formes d'expertise se reconfigurent sur l'horizontalité, qui est tout le modèle de l'Internet, et notamment de Facebook. Et du coup, le seul moyen de rentrer, finalement, dans cet espace de sociabilité, c'est de le rentrer par ce que Maffesoli, à un moment donné, avait appelé la loi de l'affrèrement. C'est-à-dire la loi des frères, la loi des pères, P-A-I-R. Et du coup, ça le tend pour les pères. Et du coup, à chaque fois qu'on a une position patriarcale, c'est pas une position patriarcale parce que c'est le père cool. Il est là, le harcèlement du cool. Et peut-être que effectivement, il y a un code qui est peut-être pas propre à Facebook, mais qui est propre à notre génération, qui fait que c'est quand même plus facile de rentrer dans des formes d'échange à partir du moment où c'est pas grave, où c'est cool, où on le fait, où il n'y a pas d'enjeu, où, etc., etc., où il y a cette sociabilité un peu adolescente, finalement.
Moi, je suis fasciné par ça, parce que finalement, ce passage du père au frère, on pourrait dire, c'est un passage d'une autorité qui était fondée sur le détachement et le secret, qui fondait une sorte de charisme, voilà, et puis de loi d'autorité. Il se déplace vers une autre forme de l'autorité, en fait, qui est l'autorité du redistributeur, c'est-à-dire que, et qui produit des inégalités sociales aussi, des inégalités culturelles, cognitives, fortes. C'est que celui qui va faire autorité dans ces espaces du cool, c'est celui qui a beaucoup de liens, et c'est celui qui... par la conversation, par l'engagement, par la redistribution, par la mise en contact d'univers différents, peut devenir cette sorte de point de passage obligé qui est typique dans les figures de réseau, c'est-à-dire le nœud du réseau, c'est celui qui redistribue deux clics qui ne se connaissent pas, mais qui s'est mis au bon endroit entre les deux clics pour faire le pont et acquérir cette légitimité de la connexion dont il est le vecteur.
Oui, donc finalement, arrive la figure du passeur, qui, même s'il évolue dans un milieu cool, retrouve une forme de charisme, finalement, une sorte de puissance, finalement. Mais il y a aussi un autre élément qui est paradoxal, c'est que, même s'il n'y a pas que des jeunes, finalement, si je suis votre raisonnement, il y a un espèce de paradoxe, puisqu'il y a une population qui a émergé ces derniers mois, années, sur Facebook, qui sont les jeunes seniors. Et alors on pourrait se dire, ben voilà, finalement, ils sont là, les vieux sont là. D'abord, ils sont là démographiquement, bien évidemment. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils reviennent quantitativement, et pourtant, ils adoptent des postures qui sont des postures de jeunes, puisque, par exemple, dans leurs attitudes, dans leur activité, dans leur rapport à l'associatif, dans leur rapport à la consommation, dans leur rapport à leur mode de, oui, mode de consommation qui est presque celui de la consommation, comme on dit parfois, ils ont, malgré leurs artères, une activité et un comportement qui est très jeune. Donc, y compris, finalement, c'est ça qui est extraordinaire avec Facebook, c'est que ça, c'est la machine à rajeunir, la machine à remonter le temps, c'est le bon sens.
Oui, oui, oui. Ce qui s'observe aussi beaucoup, quand même, c'est que de toute façon, ces plateformes peuvent faire l'objet d'usages extrêmement différents, extrêmement variés. Et une partie de ces nouveaux retraités qui, effectivement, s'engagent beaucoup avec le numérique, notamment pour faire le lien avec les petits-enfants, ça c'est la chose classique. Bon, ils ne s'adressent pas, en fait, ils ne cherchent pas à contacter des amis nouveaux, ça arrive aussi beaucoup, mais ils cherchent en fait à rétablir un lien familial en passant par-dessus les parents avec les petits-enfants. Donc on retrouve aussi des formes de sociabilité qui sont réinvesti dans les usages de Facebook.
Donc au final, finalement, le Internet de ce point de vue-là, Facebook en particulier, facilite des choses, mais n'invente rien.
Voilà, n'invente rien, mais en même temps, ça donne des possibilités d'action qui n'étaient pas là. Alors, c'est toujours ce débat éternel avec le déterminisme technologique. C'est qu'effectivement, on peut dire qu'il n'y a jamais de déterminisme technologique, ce qui serait assez logique, c'est-à-dire que c'est nos usages qui font que. Mais en même temps, le fait que nous l'utilisions pour faire quelque chose que nous faisions déjà, mais avec une technologie qui nous permet d'augmenter, d'amplifier, d'en faire plus, de le faire différemment, peut-être aussi que ça s'incruste dans les perceptions, dans le vécu des individus d'une façon un petit peu originale. Moi, je voulais insister aussi sur cet aspect sur les âges, qui est aussi les questions d'exclusion quand même, parce que y a quand même plein de gens qui n'y sont pas aussi. Hein. Comme ce réseau s'est incrusté dans nos vies sociales, ceux qui n'y sont pas, c'est très frappant, ont l'impression qu'il y a un monde d'histoires, d'événements, de choses qui se disent, qui est quelque part, mais auxquelles ils n'ont pas accès. Mmh. Et ça les met dans une situation d'intimidation. Hein. Alors, soit on y va juste pour regarder, soit on n'ose pas y aller. Mais le sentiment qu'on crée une société un petit peu à deux vitesses, hein, sous ce rapport-là, et je trouve assez intriguant. Alors que, bon, on peut très bien, évidemment, vivre sans ces réseaux. On y vit très bien, et ça n'apporte pas forcément des choses absolument majeures à la vie des individus qui n'y sont pas connectés, parce qu'ils n'ont pas envie d'y être, parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin, ni n'ont d'usage qui soit lié à ça.
Business as usual. Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup plus d'amis que de clients, et que la dimension économique reste une énigme, quand même. Alors, c'est pas totalement énigmatique, parce que je sens que... Il y a quand même tout un secteur qui a été très fortement modifié par les réseaux sociaux en général, Internet quand même, et les réseaux sociaux en général, c'est la question de l'identification des parcours de consommateurs. Si là, je réduis Internet à un espace marchand, c'est vrai qu'on arrive mieux à tracer, à anticiper, à comprendre, à accompagner, à conseiller, etc., etc., l'acte consommatoire. Voilà. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des traces qui sont laissées par le consommateur qui constitue ce vaste ensemble des big data permettent, et l'Internet en particulier, permettent de trouver, de produire de la pertinence par rapport au tracé, à l'historique de consommation. Alors, c'est aussi la pertinence, c'est aussi de l'orientation. Bien évidemment, il y a tout le champ de la manipulation qui est très proche, mais moins on aura des médias, des modèles médiatiques ou des modèles publicitaires, comme l'affichage, par exemple, qui arrose énormément de gens pour toucher quelques-uns, et plus on aura cette espèce de pertinence, de connivence avec le consommateur, ça c'est une version optimiste, plus on aura le sentiment que la relation est juste et moins violente. Voilà.
Ça c'est au cœur effectivement des modèles. Mais peut-être qu'il faut revenir en amont de cette discussion, c'est-à-dire moi ce qui me fascine toujours, c'est que quand même les grandes innovations de l'Internet, elles ont été faites sans modèle économique et elles ont été faites sans penser au modèle économique. Et même Google, à sa naissance, s'est d'abord trouvé la meilleure solution pour la recherche d'informations. Puis progressivement, il y a la question du marché, il y a la question de la monétisation qui vient en place. Facebook, c'est comment on va faire pour que les garçons retrouvent les filles dans les fêtes des pavillons universitaires américains. Bon, c'était ça la préoccupation de Zuckerberg à l'origine. Bon, très vite, on lui a fait comprendre qu'il fallait trouver le bon modèle économique. Avec cette chose qui est nouvelle et qui serait le modèle de Facebook, moi je suis très sceptique en fait sur ce modèle, qui est celui de l'hyper-personnalisation. Mmh. Et moi là, quand on regarde les deux modèles économiques qui sont présents sur le web, moi je suis fasciné par la différence entre Google, avec un modèle dans lequel on peut proposer une publicité qui effectivement devient une information, parce que j'ai tapé tel mot-clé et que des entreprises se sont battues aux enchères pour acheter les mots-clés, et qu'en tapant ce mot-clé, j'ai tapé une intention, j'ai tapé du futur. Bon, c'est incroyablement efficace, ça rapporte plein d'argent. Et l'autre modèle qui est celui de Facebook, c'est de nous dire je te connais tellement bien, parce que je sais tout ce que tu fais, j'ai tout enregistré, j'ai tout capturé, je sais avec qui tu discutes, je sais de quoi tu causes, je sais ce que tu aimes, etc., que je vais pouvoir dire aux publicitaires, voilà, je te propose ces 50 personnes-là parce qu'elles ont parlé de ta marque ou qu'elles aimeraient, etc. Et moi, je crois que ce modèle, en fait, marche beaucoup moins bien. Et on est en train de s'en rendre compte. Il est beaucoup moins, les revenus de Facebook sont beaucoup moins forts. Parce qu'il s'appuie sur des théories marketing de l'hypersegmentation du marché. Mais ce que j'ai écrit sur ma page Facebook, c'est de l'histoire ancienne, c'est du passé. Ça ne veut pas dire que c'est un désir, ça ne veut pas dire que c'est projeté dans le futur. Ça veut dire que, voilà. Et du coup, il y a une efficacité qui est quand même beaucoup plus faible de ce modèle-là. Et là encore, du fait des forces économiques démentes qui agitent le secteur, on a prêté à Facebook, au moment de la mise en bourse, des espoirs de revenus par utilisateur qui étaient en fait empruntés à ce passé qui était l'histoire de Google, qui a surpris tout le monde. Et donc on a fait de Facebook cette entreprise qui allait gagner beaucoup d'argent. Bon, moi je trouve ça assez sain qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Ça va évidemment faire tomber plein d'espoirs sur les spéculations sur Facebook. Ce qui est important du point de vue des utilisateurs, c'est qu'en revanche, il y ait quelque chose qui nourrisse un espace de sociabilité tel qu'ils l'ont constitué avec Facebook. Mais est-ce qu'il faut le faire de cette manière-là? Est-ce qu'il faut employer ce modèle publicitaire qui est incroyablement intrusif pour la vie privée? Parce qu'en fait, pour segmenter au plus fin, en fait, il faut développer toute une série d'outils qui sont des outils de connaissance des individus qui quand même entrent très intimement dans ce qu'ils ont publié, certes, mais qui entrent quand même dans une connaissance très investigatrice en fait de la vie des individus. Voilà, moi c'est un peu autour de ces questions que je m'interroge sur ces deux modèles et sur les vertus qu'on a attribuées au modèle de Facebook qui n'a pas fait ses preuves jusqu'à présent.
Qui n'a pas fait ses preuves par rapport au modèle qu'on lui prêtait, mais qui pourrait faire ses preuves si on imaginait par exemple que Facebook soit finalement la première couche la plus fidèle et la plus explicitement formulée, non pas des désirs, mais du mode de vie de l'individu. Et ça voudrait dire que potentiellement, Facebook peut se glisser entre l'individu et l'ensemble des marques et l'ensemble des services que les individus utilisent. Et du coup, je pense que la valeur, elle appartient surtout à celui qui a la place immédiate au contact du consommateur, et qu'il y a tout un tas de fournisseurs qui peuvent passer derrière et donc perdre de la valeur. Et peut-être que Facebook devient à ce moment-là la couche ultime vers laquelle l'ensemble des marques doivent passer pour espérer toucher un consommateur. Et du coup, c'est du Facebook, c'est de la distribution.
Non, mais moi, je vois bien le modèle. Ouais. C'est bien ça qu'essaye de faire Facebook. Ouais. Bon, c'est très inquiétant. Alors, c'est très inquiétant parce qu'il connaît beaucoup sur nous. Il a beaucoup de données personnelles, que ces données sont propriété de Facebook. Mais qu'il devient une plateforme d'intermédiation vers des tiers auxquels il revendrait. Alors, il ne revend pas les données, mais il revend la possibilité d'accès par la plateforme aux personnes. Bon, on voit bien qu'on donne des données, qu'on ne sait pas ensuite dans quel sens elles vont aller. Et il y a une deuxième dimension qui est compliquée. C'est que moi, je crois que ce qui fait la force du côté des utilisateurs de Facebook, c'est qu'on a un espace plus ou moins libre, hein, pas si libre que ça, d'ailleurs, quand on regarde de près, mais... où on peut libérer les subjectivités, se lâcher, discuter, converser. On converse avec ses amis, on converse avec des gens qu'on voudrait connaître, on converse avec des musiciens, on converse avec... Mais on ne converse pas avec Coca-Cola ou Nutella. Voilà. Ça ne fait pas partie de la... Bon, je sais qu'il y a une partie du monde du commerce et de l'échange marchand qui s'est inscrit dans nos vies et qui occupe un peu de nos conversations. Mais cette idée que les marques doivent s'immiscer et s'insérer dans nos conversations, c'est ce discours qui est très fortement tenu par tout le marketing autour de Facebook. Il contribue aussi à dénaturer, hein, ou à transformer, à, genre, je sais pas comment dire, à rationaliser ou à abîmer le monde vécu. Donc, que les marques soient présentes, moi je trouve qu'il faut évidemment le faire pour qu'il y ait un modèle économique, mais là il y a cette idée d'entrer quand même à l'intérieur et d'entrer, parce que quand on regarde un peu les gens qui font ces modèles avec des algorithmes qui, à mon avis, de façon beaucoup moins pertinente que ce qu'ils disent. Hein, c'est ça, bah, d'une certaine manière. Ma seule réassurance à moi, c'est de me dire ils nous promettent des choses qu'en fait, ils ne savent pas faire. Ouais. Hein. Mais en tout cas, ils promettent qu'ils savent le faire. Et notamment, ce qu'ils promettent de savoir faire, c'est la prédictibilité. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il y a tellement de données dans ces affaires qu'on ne fait plus d'hypothèses sur les données, comme on le faisait classiquement, si on a tel âge, etc., on a des chances de consommer ça. Non, on met toutes les données ensemble, on ne sait pas pourquoi. Des gens de 18-25 ans au Portugal, qui ont voyagé une fois en Roumanie, consomment de la glace Häagen-Dazs. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que les algorithmes ont prédit que vous allez consommer de la glace. C'est à la fois inquiétant, ça inquiète beaucoup de gens, et en même temps, moi, mon inquiétude est tempérée par le fait que ça ne marche. Je ne suis pas sûr que ça marche. Voilà, mais alors, il faudrait le prouver. Voilà.
Moi, je vous rejoins complètement. Je pense qu'on a sous-estimé la ruse de l'internaute, du consommateur, oui, comme de l'électeur, comme du collaborateur. Mais on a sous-estimé la ruse. Et en pensant identifier, voire arraisonner l'internaute, qui est le modèle Facebook, je pense qu'on a sous-estimé la capacité de jouer des rôles, de rentrer dans la fiction, de dire n'importe quoi pour le plaisir, etc. etc. Et du coup, il y a quand même pas mal d'aspects sur lesquels le rapport marchand sur Facebook n'est pas mature, se trompe. Et typiquement, l'exemple flagrant, c'est quand une page Facebook d'une marque s'adresse à des fans. On voit bien que là, il y a une espèce de méprise totale. C'est-à-dire que la plupart des marques qui rentrent sur Facebook pensent la page comme un espace propriétaire et sont souvent très mécontents de voir que la page ne réagit pas comme ils le souhaiteraient. Ils réagissent un peu comme un 4x3 qu'il y a dans l'espace public, c'est-à-dire non, c'est notre page. Alors que non, ce qui fait vraiment la différence, et ça, je crois que c'est propre à l'ensemble des échanges Internet, c'est que Internet, c'est une technologie, mais ce n'est pas un outil, c'est un espace. Et un espace, on ne l'utilise pas, un espace, on l'habite. Et c'est celui qui y est qui lui donne du sens. Et de ce point de vue-là, le jour où les marques auront compris ça, je pense qu'elles auront une relation qui est peut-être plus entière, si elle peut exister, avec les consommateurs, adorateurs ou je ne sais quoi.
Alors du coup, on entre dans une boucle d'essais et d'erreurs. Dans lequel il faut garder quand même, je crois, une vigilance critique très forte sur les modèles économiques qui sont en train de s'appliquer dans ces univers, parce que on voit bien que les marques ont vendu, sous la pression de tous les gourous, consultants, etc., l'idée qu'il fallait avoir beaucoup de fans. Bon, ouais. On s'est rendu compte que l'internaute ruseur, lui devenir fan, mais n'est jamais allé consulter la page de la marque, c'était c'est pas très grave, ça lui coûte rien, si ça lui rapporte un tout petit peu de trucs, il le fait. Bon, mais les marques sont en train de se rendre compte qu'elles ont pris un modèle qui n'était pas le bon modèle, donc, et que à force de réaliser que ça ne marche pas, le système peut devenir de plus en plus intrusif au détriment de la qualité des formes relationnelles qui sont établies sur Facebook. Hein, et donc, il y a un des débats typiques de Facebook, c'est d'introduire vraiment la marque dans le newsfeed, hein, qui avait été refusé par les internautes. Moi, j'aime beaucoup cette idée, même s'il faut faire attention parce qu'elle est incomplète politiquement, mais qu'une partie de la régulation se fait par la critique des internautes. Donc, on sait bien que quand Facebook avait essayé d'aller trop loin dans son modèle publicitaire, c'est d'abord les Facebookiens qui ont protesté. Hein. Simplement, sous la pression des marchés financiers, puisqu'ils sont entrés aussi dans la finance, ils vont avoir besoin de prouver au marché que les promesses qu'ils ont faites vont un jour avoir quelques petites chances de se réaliser. Mmh. Et donc, sous la pression d'un modèle qui ne marche pas, qui va un petit peu plus loin, etc., on pourrait avoir quelque chose qui devient compliqué. Bon, je pense qu'il faut être vigilant à ça. Alors, ce qui est bien avec Internet, c'est que si un jour, je crois, on corrompt fortement l'expérience utilisateur sur un réseau social, il faut en créer un autre à côté. Hein. C'est toute l'histoire des réseaux sociaux. Il est jamais impossible, même si c'est des investissements un peu lourds, d'imaginer un autre réseau qui devienne ce lieu de la conversation, voilà, qui est important.
C'est déjà fini, bravo et merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat. Deux invités dans ce même plateau, rien que pour eux.